Alors, merci tout le monde d'être là. Cet après-midi, et merci surtout Laurent Truchot, qui travaille avec moi depuis 30 ans. Laurent, merci. Qu'il est un vrai contributeur à tous les films que j'ai fait depuis 30 ans. Alors, on a fait les pauses, ça c'est bon. Et maintenant, j'ai le grand plaisir de voir Emmanuel, mais c'est Frédéric qui va introduire. Et après, Joël. Et après, on va faire un petit extrait de Rabin et on va déjeuner. C'est une petite synthèse. Et après, il y a une lettre à mon ami de Gaza, après le break de déjeuner, et les questions d'architecture. Alors, on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui encore. Frédéric, est-ce qu'on montre d'abord l'extrait, après tu vas introduire Emmanuel
ouais. Alors, Amos voulait commencer cette deuxième session par un extrait de la création cinématographique que j'ai évoquée ce matin, mais qui est aussi évidemment un spectacle de théâtre au départ, qui avait été créé en Avignon, La guerre des films des fils de lumière contre les fils des ténèbres, avec Jeanne Moreau. Et donc on va commencer par ça, et ensuite je passerai la parole à Emmanuel de Marcimota. Glisser au chapitre précédent. Alors voilà, évidemment l'enchaînement est tout à fait cohérent puisqu'on part d'une œuvre à la fois audiovisuelle, vous l'avez vu, une œuvre cinématographique qui a été présentée dans des festivals de cinéma, qui est en même temps à l'origine un spectacle de théâtre, qui revient évidemment sur une mémoire extrêmement lointaine par rapport au texte. Et c'est évidemment l'enchaînement tout trouvé pour vous présenter Emmanuel de Marcimota, qui est à la fois directeur du Théâtre de la Ville et du Festival d'automne ici à Paris. Et on va, je crois, avec vous aussi reparler de mémoire et remonter à 68 et 60, 72. Hein, c'est bien ça, je dois dire ça comme ça.
Merci. Voilà. Merci. Eh bien, bonjour à vous. Donc, d'abord, pour vous dire et remercier d'abord Amos Gitaille, personnellement, pour cette invitation, et aussi me permettre de le féliciter pour toute cette immense entreprise entre l'art, et je dirais trois mots, l'art, la mémoire et l'histoire. Parce que je tiendrai dans cette petite intervention à peut-être, non pas séparer, mais en tout cas à distinguer la notion de mémoire et la notion d'histoire. Et je pense que ce sont deux concepts fondamentaux qui, tant dans la trajectoire d'un artiste comme Amos, mais aussi dans la grande histoire, on va dire, du théâtre, de la nuit des temps, à aujourd'hui ou dans l'histoire du cinéma, nous permettent aussi de continuer à penser et à cheminer. Évidemment, je vais évoquer la notion de mémoire. Et je dirais, à propos de la mémoire, en introduction, plusieurs choses. Je dirais, avant de venir plus précisément sur le rapport du théâtre et des différents arts, qu'il s'agit bien entendu pour moi de considérer la mémoire comme quelque chose qui est en mouvement. Que quand on interroge la question du théâtre et du patrimoine, et du contexte, puisque ce sont les trois mots que vous avez dans cette intervention, il s'agit bien de considérer que la mémoire est vivante, que la mémoire n'est en aucun cas figée, qu'en aucun cas elle n'est qu'un endroit que l'on va rechercher et qui nous permet alors de penser l'oubli ou non. Mais qu'en art, et pour le créateur, la mémoire est quelque chose sur lequel on peut ou non travailler. Et là, c'est la question du choix, et qui est un autre mot essentiel. Et comment avance-t-on et quel choix fait-on ? Et j'introduirai alors un autre mot, qui est la question de quoi avons-nous à répondre ? Et c'est important si on regarde l'histoire, cette fois justement, du XXe siècle. Je vais y revenir, quant à la question du théâtre, puisque c'est à cet endroit-là que je vais intervenir. Après ce court préambule pour situer quelques mots qui vont nous aider à penser et l'importance des mots au théâtre, on vient de l'entendre, je dirais la chose suivante également à propos du film ou de l'extrait que nous venons de voir. Il y a une chose qui est tout à fait marquante, c'est la place des mots. Justement, et qu'est-ce qu'ils viennent réveiller dans notre mémoire de spectateur ? Mais il y a aussi la place des sons. Puisque l'extrait que nous venons de voir et la musique est extraordinairement importante. En quoi la musique présente avant les mots ou après ou à côté des mots agit-elle dans notre cerveau et que convoque-t-elle de notre mémoire ? Enfin, il y a la question du lieu, puisque là, nous sommes bien au Festival d'Avignon, lieu qui a une grande histoire, qui a un contexte et qui n'arrive pas par hasard, mais qui arrive par un désir puissant, et je crois beaucoup au désir, comme une puissance absolue, positive ou négative, pulsion de vie, pulsion de mort, mais ce désir de construire, après la Seconde Guerre mondiale, quelque chose qui nous réunit. J'y reviendrai. Donc ce lieu-là, en l'occurrence, où nous voyons une œuvre vivante dans un temps présent, qu'on peut appeler, en reprenant les formules de Brecht, « ici », et maintenant, eh bien, un lieu qui s'appelle la carrière Boulbon, pensé par un autre homme qui s'appelle Peter Brook, pour pouvoir y faire le Mahabharata. C'est bien dans ce lieu qu'une première mémoire vivante va s'inscrire d'œuvres immatérielles, matérielles dans l'instant, qui sont ces œuvres du théâtre, et je dirais ces formes de l'esprit. Parce que si on parle de théâtre, alors on va devoir distinguer avec le mot théâtre plusieurs éléments. Je vous rappelle déjà que chez les Grecs, le mot théâtre vient du mot théatrum, qui veut dire, comme pour les Romains, de l'endroit d'où l'on regarde ce qu'il y a à voir. Donc nous sommes bien dans un amphithéâtre, dans le sens grec et romain, où vous regardez ce qu'il y a à voir. Là, pas grand-chose. Mais il s'agit bien de ça. Ensuite, on a quitté cette idée, puisque le mot théâtre est devenu, dans l'acceptation générale, le lieu, le bâtiment, où l'on se réunit. Donc, il ne s'agit plus de ce qu'on regarde, mais le lieu dans lequel on entre. Et tout au long de l'évolution des différentes architectures, et ce n'est pas le sujet maintenant, mais du théâtre grec, du théâtre romain, du théâtre élisabétain, du théâtre à l'italienne, du hangar des années 60-70, expérimental, du bifrontal au trifrontal, le lieu a interrogé la forme et le fond, comme on vient de le voir avec la carrière Boulbon au Festival d'Avignon. Donc, le mot théâtre contient en lui-même plusieurs éléments de l'histoire du théâtre, mais aussi une mémoire vive de ce que l'on ne peut pas nécessairement voir immédiatement et qui s'efface et qui est cette fameuse œuvre de l'esprit. Où des traces peuvent être conservées, filmées, travaillées pour pouvoir y assister. Donc si je prends effectivement maintenant un exemple, le théâtre de la ville, puisque vous l'avez cité, créé en 1968 par un homme qui s'appelle Jean Mercure, pour créer dans une ville, donc ça c'est bien l'élément du contexte, c'est le troisième mot, c'est où se situe un théâtre et qu'est-ce qu'un théâtre dans une ville et quelle mémoire en a-t-on et qu'est-ce que ça veut dire le contexte du théâtre. C'est une question formidable qui demanderait beaucoup de développement, mais le contexte d'un théâtre, pour nous tous, c'est bien le lieu et le périmètre, d'abord, dans lequel le théâtre, lieu, bâtiment, se situe. Mais nous avons aussi des contextes évidemment éminemment historiques, au lieu de la question de l'espace, au-delà de la question de l'espace, et nous avons des contextes politiques. Et là, j'introduirai alors ce mot, non pas dans le sens politicien, évidemment, mais dans le grand sens grec du mot politique, c'est-à-dire de ce qui nous réunit aussi et qui nous permet d'être ensemble. Donc si je prends maintenant une mémoire de ce XXe siècle et vous raconte une histoire, rapidement, si vous me le permettez. On a bien l'avènement de la mise en scène, à la fin du XIXe et au début du XXe, les grands courants qui vont se mettre en place dans l'histoire du théâtre, avec le naturalisme, puis l'expressionnisme, le symbolisme, le réalisme brechtien, l'identification stanislavskienne que vous retrouverez, l'espace vide, le théâtre pauvre, Grotowski, Brook. On a bien tous les éléments extrêmement riches qui nous donnent la preuve que le théâtre et ses éléments de contexte sont en permanente mutation. Et que ce sont des mutations rapides, avec une capacité d'imprégnation et de dialogue avec les autres arts. La place de la musique, ou le désir de la musique, la voix de l'acteur ou de l'actrice, et la présence mémorielle de la voix de l'actrice, celle qui reste en notre cerveau pour toujours. Et je le prends dans le sens pyrandélien. Qu'est-ce que ça veut dire l'instant éternel quand on parle de théâtre et de mémoire ? Pirandello cite toujours l'instant éternel du théâtre, c'est-à-dire cet instant éphémère, mais qui crée une brèche et une faille temporelle, si vous me le permettez, et qui permet alors que notre mémoire soit active, soit vivante, ne soit pas liée seulement à l'histoire, et quelquefois se situe à des endroits de notre cortex cérébral qui ne sont pas immédiatement visibles. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous allons aller chercher en nous de plus profond, de plus enfoui, de plus caché, mais à quel endroit nous allons aussi nous permettre à nous-mêmes d'enfouir et de cacher des choses profondes et secrètes par l'art du théâtre, et par cet instant éphémère qui devient l'instant éternel, c'est-à-dire se souvenir d'une voix, celle de cette actrice extraordinaire, dont la voix nous marque pour toujours et est en nous. Alors se pose la question de la transmission de la mémoire dans un rapport à l'histoire. Donc si je reviens sur les grands événements, à titre personnel, je ne vais pas en parler plus ce matin, mais j'ai monté ces 10 dernières années comme metteur en scène, puisque je dirige deux institutions de l'histoire de ce pays, le Théâtre de la Ville à Paris et le Festival d'automne. Mais comme metteur en scène, je citerai 4 auteurs. J'en ai monté bien évidemment d'autres. Mais ces 4-là qui, pour moi, font partie de cette trajectoire essentielle. Roger Vitrac, qui écrit « Victor ou les enfants au pouvoir » en 1929, c'est-à-dire juste après ou entre les deux guerres, et qui se pose la question de l'enfant, Victor, qui commence par un V comme victoire et comme Vitrac, et qui doit mourir à l'âge de 9 ans, c'est-à-dire avant le chiffre 10, c'est-à-dire le système décimal que nous connaissons. Parce qu'il y avait un autre système, comme vous le savez, avant le système décimal. Pourquoi sommes-nous dans un système décimal et nous référons-nous systématiquement aux décennies, aux siècles ? Vitrac s'interroge sur cette question, et avec lui, nous pouvons y travailler et comprendre alors la place d'un auteur, la place d'un lieu théâtral, la place d'un spectateur dans une ville, avant ou ici et maintenant. Je citerai évidemment celui, cet auteur immense qui a fait aussi peut-être notre rencontre, qui est Albert Camus. J'ai mis en scène moi-même l'état de siège, pièce écrite en 1948, soit 3 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui interroge, en même temps que le roman La Peste, la question de l'arrivée du mal dans une ville. et l'idée que cette maladie, qui est la peste, on ne peut jamais en guérir, et que cette maladie réapparaîtra toujours. Donc il faut être vigilant, attentif, et avoir un peu de mémoire pour se souvenir des grands moments terrifiants de l'histoire, de la nôtre, parce que nous savons qu'ils peuvent se reproduire d'une autre manière à tout instant. Donc Camus, j'en dirai pas beaucoup plus, mais nous permet artistiquement de nous réunir dans un théâtre, dans un lieu, pour pouvoir continuer, je dirais, une méditation et aussi un instant de plaisir, parce qu'il avait une formule qui était fondamentale, qui était le plaisir de vivre et le plaisir de la vie. Et qu'est-ce que c'est que cet désir, ce désir-là, ce désir de vie dans son œuvre ? Ensuite, je prendrai Ionesco et une pièce qui s'appelle Rhinocéros, que vous connaissez tous, mais qui est très peu montée, et qui a été écrite en 1959. Où Eugène Ionesco, à moitié roumain, à moitié français, a lui-même eu le désir de raconter cette transformation de l'homme possible vers autre chose, et ce profond archaïsme qui est en chacun des êtres. Et comment, au fond de nous, il y a peut-être cet animal aveugle, parce qu'il est aveugle, il voit très mal, qui s'appelle le rhinocéros. Et Ionesco pensait d'ailleurs appeler au départ sa pièce « Les moutons féroces ». Et finalement, ça a donné des rhinocéros. Des rhinocéros, d'ailleurs, disait-il, dans une interview avant de mourir. Et il s'est interrogé toute sa vie sur qu'est-ce qu'est le rhinocéros qui est en vous, en moi, en nous, et le rhinocéros qui va revenir. Donc ce rapport politique, si vous voulez, c'est-à-dire l'endroit où l'on s'interroge dans une société à travers une discipline, laquelle théâtre, et ses auteurs et ses poètes, sur l'être humain, sur ce qu'il est, et comment il peut transformer l'autre et se transformer soi-même. Enfin, je citerai pour finir un autre auteur que nous aimons beaucoup et que tu as eu la chance de rencontrer, Amos, qui est Arthur Miller. Arthur Miller, avec cette pièce que je viens de monter récemment, qui est écrite en 1952, qui s'appelle « Les sorcières de Salem », pièce peu montée en France, beaucoup montée ailleurs dans le monde. Et cette pièce, vous le savez, alors justement, part d'un fait réel, d'une histoire réelle, dans la ville de Salem, en 1692, où effectivement des jeunes femmes sont condamnées, et beaucoup de femmes vont être condamnées, pour sorcellerie, et condamnées à mort, pendues. Et Arthur Miller part dans la ville de Salem, enquête. Donc il y a bien un travail aussi d'enquête, de reconstitution pour soi-même, et j'en dirai un mot pour conclure sur ces quatre auteurs, un travail de reconstitution pour soi-même, de compréhension exacte des événements historiques, mais pouvoir alors les sublimer par l'art et les traduire artistiquement. Et créer cette pièce en 1952, qui vient rencontrer la problématique du macartisme aux États-Unis et qui aujourd'hui, en 2019, pour moi à Paris, est jouée par un acteur qui s'appelle Serge Maggiani, avec Élodie Bouchèze et d'autres acteurs. Donc on voit bien les rapports, si vous voulez, de temporalité et de mémoire et d'histoire qu'on peut trouver à travers des œuvres, en prenant ces quatre auteurs, et qui interrogent tous les quatre profondément la question du siècle. Alors je dirais maintenant deux choses, rapidement. La première, c'est qu'il s'agit bien de préciser qu'il ne s'agit pour personne de faire un travail archéologique, et que de travailler sur la mémoire, ça n'est pas faire de l'archéologie, et que nous ne sommes pas des historiens. Que l'artiste n'est pas un historien. Qu'il y a des champs disciplinaires qui appartiennent à chacune et à chacun, et qu'il est important, même si nous pouvons travailler de manière transversale, et en collaboration, en coopération, et mettre en mouvement un ensemble, mais il s'agit bien de savoir d'où l'on part, où l'on est, et à qui on s'adresse. Donc l'artiste n'est pas un historien, il est celui qui peut puiser dans l'histoire et dans cette grande histoire fondamentale, et là je pense au XXe siècle bien évidemment, mais qui lui est constitué par les siècles précédents. Si nous parlions il y a peu de temps par exemple un autre sujet qui viendra plus tard certainement, qui est celui de l'Inquisition en Europe, qu'est-ce que cela a produit jusqu'à aujourd'hui, où en sommes-nous en ce début du XXe siècle? Donc on voit bien que c'est la question de la mise en mouvement de notre imaginaire par rapport aux faits de l'histoire, et qu'il s'agit bien, pour l'artiste, de développer sa propre liberté d'imagination et de création. Ce qui est fondamental, sinon une confusion pourrait rentrer. À partir de ces éléments, je disais, finalement, quand on parle du patrimoine du théâtre, Qu'est-ce qu'est le patrimoine du théâtre? Eh bien, je dis, à travers ces exemples, ce sont forcément des œuvres de l'esprit. Nous avons des bâtiments, mais nous avons des œuvres de l'esprit. Mais n'oublions pas que ces œuvres de l'esprit, elles n'existent que parce qu'elles attendent d'être rendues à la vie. Si vous ne les rendez pas, si nous ne les rendons pas à la vie, ces œuvres de l'esprit, qui peuvent être couchées sur le papier, attendent qu'on les mette debout. Là, je pense alors cette fois à des personnages, à Antigone, à Hamlet, qui sont en attente, comme dit Pirandello, pour toujours, et qui attendent secrètement qu'un autre, qu'une autre, les rende à la vie pendant un instant, qui est celui non pas de la présentation, mais de la représentation. Donc on pourrait alors imaginer que la Terre, qui est ronde, comme vous le savez, parce qu'elle n'a pas le choix, ça vient de la gravité, eh bien cette Terre ronde est entourée d'un ruban qui est celui des personnages qui sont en attente que nous, qui sommes mortels, et eux qui sont éternels, parce qu'il faut intégrer que le personnage est éternel, mais que la personne est mortelle. Eh bien, que Hamlet, que Antigone, que Rodogune, que Philoctète, que tant de personnages sont en attente qu'on leur redonne la vie pendant un temps donné. Pour cela, il faut bien alors considérer que la mémoire, elle est vivante, que la mémoire est présente, et c'est que c'est elle, et à partir d'elle, que nous constituons le récit de l'avenir. Donc le grand sujet passé, présent, futur, et je vous renvoie aussi à ce texte extraordinaire de Ionesco qui est passé, présent, présent, passé. Et qui veut tout dire dans tout le rapport à son œuvre et à sa propre imagination. Et donc je dirais enfin que le contexte du théâtre est bien le lieu de l'espace et du temps. Et que ce qui définit profondément le contexte du théâtre, c'est l'espace et le temps. L'espace, je l'ai dit en introduction, comme lieu, le bâtiment, mais aussi le lieu de la représentation, qu'il soit rectangle, rond, peu importe, triangulaire, celui où l'actrice ou l'acteur joue, pour d'autres qui le regardent, et là on revient au sens grec du mot théâtre, mais le temps de ces personnages enfouis, secrets, qui sont dans notre mémoire individuelle, et qui deviennent alors une mémoire collective. Et c'est ce qui fait peut-être ce que d'autres appellent le ciment d'une société. Je déteste le mot ciment, mais je dirais le trait d'union alors entre des êtres, qu'ils soient féminins ou masculins, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, mais qui nous renvoie alors à notre profonde compréhension de ce que peut être, et de notre en tout cas méditation, l'art du théâtre dans le lien à la mémoire, qui est le grand sujet d'aujourd'hui, à la création, mais aussi au contexte. Et enfin, donc, pour terminer, si je prends des grands exemples, des marqueurs, comme on dit aujourd'hui, vous prenez dans le XXe siècle, j'ai cité des auteurs, prenons ce qu'on appelle des institutions, termes qu'il faudrait définir de manière un peu plus sérieuse que l'utilisation courante que nous en faisons, eh bien ces institutions, si je prends après la Seconde Guerre mondiale, à Paris naît le Théâtre des Nations, dans les années 50. Dans l'idée, justement, qu'on doit accueillir Bertolt Brecht et le Berliner ensemble, avec Mère Courage, Hélène Weigel, et puis aussi l'Opéra de Katsu. Des grandes pièces qui marquent peut-être, non pas une réconciliation franco-allemande, mais tout simplement l'idée que les Français ou les Parisiennes et les Parisiens doivent retrouver la beauté de la langue allemande et non pas écouter la langue allemande à travers la langue de Hitler. Et si je vous parlais de la voix et des phonèmes et des sons d'une langue, c'est bien aussi parce qu'on doit pouvoir toujours se dire que la langue de l'autre est belle. Parce qu'à partir du moment où on considère que la langue de l'autre n'est pas belle, quelque chose de terrifiant se met en place. D'où l'idée du Théâtre des Nations, de faire venir aussi du théâtre du Japon, c'est-à-dire de toutes les nations, je l'ai entendu dans le texte, qui a été dit là à la carrière Boulbon, de cette guerre entre les cités et les villes, et les nations, pardon, ce qui vient d'être dit au début de ce film. Ensuite, vous avez quelque chose d'autre qui est très important, qui va être la naissance du Festival de Nancy. Théâtre, festival mondial, on passe du mot nation à festival mondial du théâtre universitaire, avec l'arrivée, effectivement, de Pina Bausch, de Huzos Kantor, puis on connaîtra Grotowski et tant d'autres. Et l'importance, alors, pour une jeunesse, cette fois, du monde, de pouvoir être présent et de se réunir dans cette ville. Et Michel Kokosowski, qui est là, en parlerait beaucoup mieux que moi. Ensuite, vous avez, et parallèlement, l'idée de la naissance par Jean Mercure du Théâtre de la Ville à Paris, qu'il appelle Théâtre Municipal Populaire, à ce moment-là, tout simplement, avec une troupe, la sienne, des auteurs, des poètes, la musique, le théâtre, et il dit il faut qu'il y ait les arts frères, il reprend le concept de Brecht, à propos des arts frères, le théâtre, la danse et la musique. Et vous avez parallèlement la naissance du Festival d'automne par Michel Guy, qui veut que Paris accueille l'étranger, et les grandes formes américaines, Bob Wilson, Robert Wilson, Merce Cunningham, Lucinda Childs, celles qui vont débarrasser ou ceux qui vont débarrasser la scène du réalisme et du naturalisme. Et enfin, 1981, la naissance du Théâtre de l'Europe Odéon. Alors vous pouvez me dire, mais le Festival d'Avignon, bien sûr, mais je l'ai déjà cité, parce qu'on le connaît bien, parce qu'il a un lieu qui est physique et visible, et qui reste, je dirais, le lieu de mémoire et d'histoire dans la cour du Palais d'Honneur, Palais des Papes, donc on ne peut pas faire plus historique, pour faire la représentation du vivant et du contemporain et du présent. La grande question, c'est que maintenant nous sommes au XXe siècle, au XXIe. Vous voyez, j'ai du mal à le dire. Mais nous sommes au XXIe et je finirai par dire que ce qui m'importe ou ce qui me semble intéressant de travailler, c'est comme en 1920 ou en 1820 ou en 1826, quand Musset écrit « Les confessions d'un enfant du siècle », à quel moment ce XXIe siècle commence ? Eh bien, pour moi, il commencera à partir du moment où nous arriverons ensemble à nommer les années 20 du 21e, c'est-à-dire dans un an. Parce que, pensez-y, quand nous serons en 2027, nous serons dans les années 20 du 21e. Et quand nous dirons à quelqu'un « Vous êtes dans les années 20 », il ne pensera plus au 20e, il pensera au 21e. Aujourd'hui, vous ne dites pas qu'on est dans les années 10, ni avant, dans les années 0, puisqu'on ne les nomme pas. Si je dis les années 20 au moment où je parle, vous pensez automatiquement au XXe siècle. Mais dans 8 ans, vous ne penserez pas à la même chose. Donc, en conclusion, ces œuvres de l'esprit, dans leur classement par système décimal, nous permettent bien de nous représenter un endroit de notre propre existence. Et enfin, pour terminer, je dirais à Amos Gitaï que le trait d'union et le lien qu'il fait dans ce rapport au temps, à l'espace, au théâtre, à la danse, à la musique, à son désir des langues différentes ensemble sur le plateau, ce qui sera présenté bientôt à Paris, puisque Amos sera présent avec un spectacle au Théâtre de la Ville début septembre, où nous entendrons deux langues du monde, face à face, côte à côte, ce sont des chemins essentiels pour ce que nous visons, c'est-à-dire la paix. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Emmanuel de Marcy-Motta. Et vous venez de finir sur la paix. L'enchaînement est tout trouvé, puisque avant la prochaine intervention de Jalot de Vaulx, on va regarder un extrait du dernier jour d'Isaac Rabin pour introduire la relation, justement, de M. Hautevol de la BNF. Thank you.
Sholi Lomar, שאני גם מתרגש. אני רוצה להודות לכל אחת ואחד מכן שהתייצב כאן כנגד האלימות ובעד השלום. הממשלה הזאת, שיש לי זכות לעמוד בראשה, יחד עם חברי שמעון פרס, החלטנו לתת הזדמנות לשלום, לשלום שיפתור את מרבית בעיות מדינת ישראל. הייתי איש צבא 27 שנים, נלחמתי כל עוד לא היה סיכוי לשלום. אני מאמין שיש סיכוי לשלום, סיכוי גדול, וחייבים לנצל אותו למען אלה שעומדים פה, למען אלה שאינם עומדים פה, והם רבים בעם. תמיד האמנתי שמרבית העם רוצה בשלום, מוכן ליטול סיכון לשלום, ואתם כאן בהתייצבותכם בעצרת הזאת מוכיחים עם רבים אחרים שלא הגיעו לכאן שהעם באמת רוצה בשלום.
Voilà, je pense que vous l'avez ressenti, on est véritablement là à la fois dans du matériel évidemment d'archives véritables, de télévision, de documents, et on glisse dans une reconstitution d'archives, mais de Amos Gitai qui fait archives, comme le dira Jean-Michel Frodon plus tard, autour de ce film qui est un ensemble extraordinaire d'éléments, de recherches, de travaux qui maintenant sont déposés à la BNF. J'ai le plaisir de passer la parole à Joël Hudvall, directeur du département des arts et du spectacle de la Bibliothèque nationale de France.